Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, l'entraînement des grands modèles de langage, les fameux LLM.
Oui, bonjour. C'est vrai que c'est un défi computationnel énorme. Et l'idée d'utiliser des ressources, disons, moins centralisées, donc moins chères, ça séduit pas mal de monde. Mais bon, il y a un hic. Ces systèmes sont souvent moins fiables.
Exactement. Le risque de panne en plein milieu.
Voilà. Que fait-on quand une partie du système plante alors que l'entraînement coûte déjà une fortune? C'est un vrai problème.
Justement, on est tombé sur une recherche toute fraîche. Arxiv.2506.1546. Blagoev, Ersoy et Chen.
Ah oui, je vois.
Et aujourd'hui, on va explorer leur approche pour récupérer un entraînement après une avarie, mais sans passer par les méthodes classiques, qui sont assez lourdes.
C'est ça, sans le checkpointing systématique ou la redondance à outrance.
Allez, on décortique ça.
Allons-y. Donc, pour bien poser le contexte, on entraîne souvent ces modèles de manière distribuée. Le modèle est en quelque sorte découpé. Chaque partie tourne sur une machine différente. C'est ça, un pipeline distribué?
Le problème, c'est ce qu'on appelle le churn. C'est quand une machine ou un nœud de calcul, il disparaît. Il tombe en panne, il est déconnecté, peu importe.
Et ça, ça peut tout arrêter ou au moins sérieusement perturber le processus.
Les solutions habituelles, c'est quoi? Le checkpointing, donc des sauvegardes complètes régulières?
Voilà. Ou alors le calcul redondant, où on fait le même travail sur plusieurs machines, au cas où une lâcherait.
Mais ces deux méthodes, elles ont des inconvénients majeurs, non?
Ah oui. Le checkpointing, ça demande énormément de communication pour sauvegarder tout l'état du modèle, surtout s'il est énorme. Et la redondance, ça double quasiment le coût de calcul.
Et puis ça scale mal avec les très très gros modèles actuels.
Exactement. C'est là que ça devient très coûteux, voire intenable.
Et c'est là qu'intervient cette nouvelle approche. Check-free, c'est ça?
C'est ça. Check-free, c'est la première proposition de l'article. Et l'idée est assez maligne, je trouve.
Alors, expliquez-nous.
En gros, si on étape intermédiaire du pipeline plante, donc pas tout au début, pas tout à la fin, au lieu de tout recharger depuis la dernière sauvegarde, ou de tout recalculer,
oui.
Check-free remplace les poids de cette étape défaillante par une moyenne pondérée des poids des étapes voisines les plus proches qui, elles, sont toujours là.
Une moyenne pondérée des voisines.
Oui. Un peu comme si on réparait un petit trou dans un tissu en tirant un peu sur les fils autour pour le combler.
D'accord. Et l'avantage clé, c'est quoi alors?
C'est qu'il n'y a quasiment aucune charge de calcul ou de stockage en plus par rapport à un entraînement normal sans panne. Pas besoin de sauvegarder tout le temps.
Ça paraît presque trop beau. Pas de coût additionnel.
Juste une moyenne.
C'est le principe de base, oui.
Mais attention.
Je me disais bien, il y a une limite.
Oui. Ce check-free simple, il ne fonctionne pas bien si la panne touche la toute première ou la toute dernière étape du pipeline.
Pourquoi ça?
Parce qu'une étape au bord n'a qu'un seul voisin direct. On ne peut pas faire une moyenne pertinente avec une seule autre étape. La logique de compensation par les voisins tombe un peu à l'eau.
D'accord, je vois. C'est logique. C'est une limitation importante quand même. C'est là que ça devient vraiment intéressant, non?
Absolument. Et c'est là qu'ils introduisent Check-Free Plus. L'astuce est un peu plus complexe.
Dites-nous tout.
Ils utilisent ce qu'ils appellent une exécution de pipeline désordonnée, ou out of order. En gros, l'ordre strict des étapes est un peu assoupli.
D'accord. Et ça change quoi?
Ça permet aux étapes qui sont à côté des étapes de début ou de fin de pouvoir, en quelque sorte, imiter leur comportement si jamais ces étapes de bord venaient à tomber en panne.
D'accord. Donc, concrètement, si l'étape 1 ou la dernière étape plante, comment Check-Free Plus la récupère? Là, c'est plus simple. Il copie simplement les poids depuis son unique voisin immédiat. Si l'étape 1 plante, on copie depuis l'étape 2. Si la dernière plante, on copie depuis l'avant-dernière. Une copie simple. Ça suffit. Et pour les couches spécifiques au début et à la fin, comme les embeddings?
Bonne question. Pour que cette copie fonctionne bien, il faut que ces couches d'intégration embedding et de désintégration des de-embedding soient aussi présentes, ou du moins copiées, sur les étapes voisines, étape 2 et avant-dernière étape.
Ah, d'accord. Donc ça introduit quand même une petite surcharge de stockage, non?
Oui. Une légère surcharge, c'est vrai. Il faut dupliquer ces couches spécifiques sur les étapes adjacentes, mais les auteurs estiment que c'est minime comparé aux gains obtenus en évitant le checkpointing lourd.
C'est un compromis, en somme. Un peu plus de stockage localisé pour beaucoup moins de communication globale et de temps perdu.
C'est exactement ça. Une optimisation de la résilience par une petite réorganisation.
Intéressant sur le papier, mais est-ce que ça marche en pratique? Est-ce qu'ils ont testé tout ça?
Oui, bien sûr. Ils ont fait des tests sur des modèles de type LLMA, avec différentes tailles, de 124 millions à 1,5 milliard de paramètres.
Ah oui, quand même. Des tailles assez représentatives.
Et ils ont simulé différents taux de panne, différentes fréquences de churn.
Et alors, qu'est-ce que ça donne? Les résultats. Est-ce que CheckFree et CheckFree Plus tiennent leurs promesses face aux méthodes classiques?
Eh bien, les résultats sont plutôt concluants. Pour des taux de panne qu'on peut considérer comme faibles à moyens, ils parlent de 5 à 10% de panne d'étape.
Oui.
CheckFree et CheckFree Plus permettent au modèle de converger plus de 12% plus vite, en temps réel, que le checkpointing ou le calcul redondant.
Plus de 12% plus rapide?
Oui.
C'est significatif, surtout quand on parle d'entraînements qui peuvent durer des semaines ou des mois.
Tout à fait. C'est un gain de temps et donc de coût non négligeable. Et il précise aussi que le code utilisé pour les expériences est disponible, ce qui est bien pour la reproductibilité.
Excellent. Donc si on résume.
En gros, CheckFree et CheckFree Plus se présentent comme une alternative vraiment prometteuse pour gérer les pannes, ce fléau de l'entraînement distribué, surtout sur des infrastructures moins premium, disons.
Moins cher, potentiellement. Voilà, l'impact pourrait être important. Réduire les coûts, bien sûr. Mais aussi peut-être démocratiser un peu plus l'accès à l'entraînement de très grands modèles. Ça ouvre des perspectives intéressantes. Ça soulève une question importante, en fait. Si on peut récupérer efficacement l'entraînement sans ces sauvegardes complètes et fréquentes, juste en étant un peu malin sur la structure et la collaboration entre les parties du modèle.
Oui. Où voulez-vous en venir?
Je me demande quelles autres stratégies qu'on considère aujourd'hui comme coûteuses, mais indispensables dans l'IA, pourraient être revisitées, optimisées de la même manière.
Ah, c'est une excellente question.
Je pense, je sais pas, à certains aspects de l'apprentissage par renforcement ou à l'exploration massive d'hyperparamètres. Est-ce qu'on pourrait là aussi remplacer une partie de la force brute par plus d'astuces structurelles en exploitant mieux comment les choses fonctionnent en interne?
C'est une piste de réflexion très pertinente. Si on peut intégrer la résilience et l'efficacité directement dans l'architecture ou la méthode d'entraînement, ça pourrait changer pas mal de choses.
Exactement. Une belle question pour finir. Merci beaucoup pour cet éclairage.
Merci à vous. C'était passionnant.